France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
D'habitude, c'est le moment où je vous donne le détail du thème du téléphone sonne. Quel angle d'attaque avons-nous choisi pour cette conversation quotidienne? Eh bien, ce soir, c'est vous qui pilotez cette journée spéciale. À vous la parole sur France Inter. C'est le téléphone sonne. C'est un téléphone sonne géant. Et c'est donc avec le téléphone sonne qu'elle se termine. Ne changez donc rien à vos habitudes. On veut vous entendre là où vous le voulez sur la situation politique de notre pays. Comment vous sentez-vous? Et qu'est-ce que vous leur diriez à vos leaders de parti si vous les croisiez dans la rue? Qu'est-ce que vous leur dites à vos députés que vous avez peut-être croisés ce week-end? Est-ce que vous avez mis tout le monde dans la case irresponsable? Est-ce que c'est la fonction présidentielle qui vous interroge? Est-ce que c'est le rôle des partis que vous voulez plutôt évoquer? Est-ce que vous êtes passé au stade d'intérêt à celui d'indifférence totale? Est-ce que cette situation vous donne envie d'aller voter ou au contraire de cesser de voter, pardon, ou au contraire vous donne envie d'y aller et vous pousse à l'engagement? Nous sommes, nous aussi, dans l'équation, nous, les citoyens. Et ce qu'on entend beaucoup de vos réactions déjà au fil de cette journée, c'est que vous cherchez avant tout de l'apaisement. Vous semblez plus lassé qu'en colère. Vous semblez plus appelé à se mettre autour d'une table que la renverser. Je me souviens d'un auditeur ici même, et c'était même avant l'aller-retour de Sébastien Lecornu, qui parlait de sketch. Ce qui évoque donc moins un doute sur les institutions qu'un doute sur ceux qui les représentent. Je termine juste en vous rappelant quand même où on en est, parce que ce que vous avez suivi toute la journée, eh bien peut-être pas. Les ministres ont donc pris solennellement leurs fonctions. Deux motions de censure sont déjà sur la table, pour LFI et pour le Rassemblement National, celle du DR d'ailleurs aussi. On attend le discours de politique générale qui aura lieu demain. Sans savoir si le PS suit sur les motions de censure, nous partons de là. C'est à vous de jouer, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
France, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Florence.
Alors moi je vous appelle parce que j'ai 51 ans, je suis agent d'État, je suis infirmière scolaire dans un milieu ultra-rural du Cantal. Et je suis issue d'une famille de communistes et de socialistes. Moi le premier souvenir que j'ai c'est 80 avec le champagne qui explose chez moi. Voilà, j'ai eu mon fils en 2021, j'ai choisi entre Chirac et Le Pen. Ça avait été facile. Et puis là on est en 2025, mes enfants vont voter. Et ils vont voter, je ne sais pas quoi, comme ils disent, maman, qu'est-ce qu'on va faire? Et quand je vois ce marchandage de tapis la semaine dernière, cette semaine, ça me met même plus en colère, je suis dépitée.
Et alors du coup, est-ce que voilà. Vous savez, vous, comment vous allez voter d'ailleurs, ou est-ce que vous avez presque perdu votre vote, vous aussi, Florence?
Ah bah là, j'ai pas perdu mon vote à droite et à l'extrême droite, ça c'est sûr. Mais où est-ce qu'il va se situer? J'en sais rien, en fait. Et j'attends du Parti Socialiste. Enfin, je sais pas, soit ils y vont et ils disent on bloque tout et on demande et on tient ferme et on censure tout, soit on se sert pas de la réforme des retraites pour négocier un truc qui va durer quoi? Allez, un mois, deux mois, trois mois, enfin c'est du marchandage de tapis, c'est pas de la politique ça. C'est on tient parce que en 2027, il faut qu'on soit au bon endroit, au bon moment, pour que les gens disent mais non, en fait, on en a ras-le-bol de tout ça. 2027, à la limite, je m'en fiche. Moi j'en suis à, là vous avez, il y a le plan santé mentale, moi j'ai 20% de mes gamins qui sont pas bien, j'ai pas de médecin, j'ai pas de médecin scolaire, j'ai pas de spécialiste, j'ai pas de lit, enfin si vous voulez je vous fais une liste longue comme le bras de tout ce qui tourne par rond.
Inutile, on a bien compris où vous nous envoyez Florence, mais vous y croyez, vous dites?
Je suis agent d'État, j'y crois. Si j'ai fait ce métier-là, c'est un choix. C'est pas par opportunisme ou facilité. Je crois. Mon travail tous les matins, je me lève, je suis contente. Je fais quelque chose pour Mais stop quoi.
Merci.
Stop. Je demande pas une augmentation. Je demande pas la lune, ni la reconnaissance. Je demande juste que ça s'arrête et que ça tourne rond quoi. Parce que là, ça tourne pas rond.
Merci Florence. Merci beaucoup. Stop. Nous dit Florence. Vraiment bonsoir Gilles Finkelstein. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes
bonsoir.
Le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Gilles est dans le grand face à face évidemment avec Thomas Négaroff et Natacha Polony le samedi sur Inter. Sophie Dravinel est là également. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Journaliste politique indépendante. Moi, il y a deux choses que je retiens pour l'un comme pour l'autre de ce que dit Florence. D'abord, c'est le côté perdu. elle dit stop, et puis elle dit surtout 2027, je m'en fiche. Et je voudrais qu'on commence par là, Jill Finkenstein. Est-ce qu'on n'a pas tendance dans ce pays à imaginer que chaque élection présidentielle, et celle-ci en particulier, va tout remettre dans le shaker, que tout va changer, que ce sera presque le moment miracle où enfin on y verra clair? Est-ce qu'on ne se trompe pas, et peut-être même lourdement, y compris sur celle-ci, là, celle de 2027, en croyant qu'elle remettra tout le monde d'équerre?
C'est sans doute un des effets de ce qui est une singularité française en Europe, qui est le poids central de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, alors que tous nos voisins européens vivent dans des régimes parlementaires. Sans doute aussi lié à la figure mythique du général de Gaulle, puis de François Mitterrand. Et il y a une croyance un peu magique dans cette élection. Je pense que c'est renforcé là dans la période par ce sentiment depuis la dissolution de 2024 que rien, ou en tout cas rien de positif, ne peut se passer d'ici là. Et que donc, il faut se projeter dans cette élection avec... Un élément supplémentaire, c'est que l'élection de 2027 est une élection dans laquelle le président de la République ne pourra pas se représenter. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant, 2027 n'est pas une élection. Il y a deux grandes catégories d'élections présidentielles. Il y a celles dans lesquelles le président sortant peut se représenter et celles dans lesquelles il ne se représente pas. Et souvent, les élections sans président sont de bonnes élections pour essayer d'introduire une petite lueur d'espoir dans ce ciel gris.
Mais du coup, ce que vous dites, c'est que cette phrase qui est presque devenue une tarte à la crème, en fait, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un pays, cette phrase, elle n'existe plus, en fait. Elle n'a plus de sens. Quand j'écoute Florence, en tout cas, je me dis que c'est vraiment le genre de tarte à la crème qu'on rabâche à chaque moment électoral, mais ça ne tient plus vraiment la route.
Je pense qu'il y a deux choses qui tiennent plus. C'est l'idée qui était l'idée gaulliste par excellence que cette élection permettait, parce qu'il n'y avait que deux candidats au deuxième tour et donc un candidat qu'il allait avoir 50% des suffrages, qu'il aurait de ce faisant une légitimité très forte. Ça ne tient plus dans un paysage politique qui est tripolarisé. Et la deuxième chose qui ne tient plus, c'est le caractère automatique d'une majorité parlementaire qui suit la majorité présidentielle.
Mais ce que ça dit, on va écouter Alexandre dans un tout petit instant, ce que ça dit Sophie Drevinel, parce que je vous ai vu trépigner, c'est que... On a pu penser à un moment, je reviens sur ce que dit Gilles, que l'élection c'était aussi une manière de recharger la démocratie. En fait, on se remet. Aujourd'hui, est-ce que l'élection recharge toujours la démocratie ?
Eh bien,
quand j'entends notre ami Florence, je me dis non, en fait.
En fait, moi, je veux dire, ce qui va recharger la démocratie, ce sont des personnes comme Florence, figurez-vous. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai entendu chez elle, c'est son envie de continuer à servir l'État. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle, au cœur de l'appareil de l'État. On n'est pas dans la haute fonction publique. On n'est pas dans l'appareil politique. On est chez ces personnes qui servent l'État et qui sont au service de la population française. Et je pense qu'on n'est plus dans cette espèce de recherche, je ne dirais pas infantile, parce que ça n'a jamais été le cas, mais presque irresponsable, d'un deus ex machina, une personne qui tombe du ciel pour venir résoudre les problèmes démocratiques. On est effectivement à un moment crucial, à un nœud, et ce nœud-là, il est face à nous et les Français vont devoir le résoudre.
Voici Alexandre qui nous attend. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Allez-y Alexandre.
Alors, tout d'abord, ça m'a fait sourire quand j'ai entendu Florence indiquer qu'en 81, le champagne a sauté chez elle pour l'élection de François Mitterrand, c'est la même chose chez moi. Et moi, je voulais réagir parce qu'en fait, le comportement de nos politiques actuellement m'exaspère profondément. Si je résume un petit peu sur la précédente démission du gouvernement Lecornu, c'était « Ah, tu invites Bruno dans ton équipe, je vais pas jouer avec toi ». C'est vraiment des gamins, ça m'exaspère. Je pense que nos politiques devraient faire un tour dans le monde privé, travailler un petit peu, comprendre comment ça marche, parce que quand on est dans le monde du privé, on a une direction, on a une orientation qui est donnée par le capitaine, et on se donne tous les moyens pour arriver dans cette direction-là, et puis c'est tout.
Sauf que là, il y a un problème de capitaine aussi, vraisemblablement, Gilles Finkelstein.
Oui, ce que je traduis ce que dit, à ma façon, ce que dit Alexandre. En fait, c'est quand on est dans une entreprise, y compris quand il y a... Parce que aussi dans les entreprises, il y a des confrontations d'intérêts et même parfois de débats sur les objectifs. Mais c'est le compromis. Et dans une entreprise, on doit trouver, sinon ça ne fonctionne pas, on doit trouver un compromis. Et ce qui fait défaut, et on voit toutes les difficultés non seulement depuis 2024, mais même depuis 2022, depuis qu'il y a une majorité relative, on voit la difficulté qui est une difficulté spécifiquement française pour nouer des compromis. Et c'est encore plus difficile quand il y a cette obsession présidentielle et que tous les acteurs savent que dans un an et demi, eh bien, il y a une élection présidentielle.
Allez, Sophie Dravinel, le prochain auditeur est pour vous et c'est Vincent. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors j'ai du mal à comprendre ce qui se passe en ce moment, puisque on a des députés qui veulent la parole. Or, Sébastien Lecornu a promis de changer de façon de fonctionner avec quelque chose de très important, qui est d'abandonner le 49-3 et de redonner à l'Assemblée la possibilité de discuter chaque article des projets de loi. Et d'un seul coup, on voit que personne ne veut discuter et que tout le monde pense plutôt aux élections présidentielles de 2027, effectivement, et ne veut pas se mettre autour de la table, alors qu'ils avaient demandé à ce qu'on change de mode de fonctionnement. Donc là, je ne comprends plus bien.
Merci pour ce passage dans le téléphone sonne et pour votre remarque, Vincent, Sophie Dravinel. Eh bien, on a réussi à les perdre, nos auditeurs et donc les électeurs.
Oui, je pense qu'on va les retrouver parce que a priori, il pourrait quand même y avoir un débat. Disons que ça n'est pas complètement exclu. C'est-à-dire que ça va dépendre de ce que dira Sébastien Lecornu demain sa déclaration de politique générale. S'il évoque une suspension de la réforme des retraites, il peut ouvrir le champ à un débat parlementaire qui pourrait être beaucoup plus riche qu'il ne l'était, qui pourrait même revenir à ce qu'il y avait en 2024 jusqu'à quasiment une possibilité d'accord. Nous y étions presque entre les parlementaires. Et donc laissons aux parlementaires le temps de débattre. Effectivement, pour l'instant, on est dans une espèce de nœud qui se limite aux nominations au gouvernement, à ces gouvernements qui tombent. Mais là, il va y avoir peut-être potentiellement...
Vivement qu'on parle de quelque chose d'intéressant.
Et bien voilà, on va rentrer dans le dur si jamais la déclaration de politique générale laisse la porte ouverte.
Gilles, rapidement, et Frédéric nous attend.
Oui. Je suis frappé de ce que dit Vincent, c'est qu'il y a en réalité, depuis 2024, on mesure l'intériorisation par les députés de leur rôle second dans les institutions. Ouais. Le pouvoir était à prendre au lendemain des élections législatives pour peu qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils essaient de trouver une solution. Et c'est frappant qu'ils, non seulement c'est pas qu'ils n'ont pas réussi à le faire,
ils étaient presque sur
ils
le
n'ont
point
même pas
d'y arriver.
Essayé de le faire, et peut-être qu'ils n'y ont même pas pensé.
Alors, on verra s'il y a un coup à jouer, et y compris pour les acteurs locaux, en fait, parce qu'ils sont toujours les acteurs politiques locaux, qui sont toujours les politiques préférées des Français, malgré tout. Frédéric est là d'abord. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, je vis très mal, comme beaucoup de monde, cette crise que je vis, en fin de compte, comme un coup d'État institutionnel de la part à la fois de M. Macron, bien entendu, qui joue avec les institutions, qui a triché avec le résultat des législatives, qui prend du temps à chaque fois, et contre lequel on ne peut rien, parce qu'il est intouchable, ce qui pose la question, effectivement, des pouvoirs excessifs du président. Mais il y a d'autres responsables de ce coup d'État institutionnel, ce sont les partis, en particulier les Républicains, qui, depuis un an, ont accepté de prendre une part du pouvoir, alors qu'ils n'ont aucune légitimité, ni M. Barnier, ni M. Bayrou ensuite, ni M. Lecornu, n'ont aucune légitimité aujourd'hui à exercer le pouvoir. Or, ils l'exercent. Ils l'exercent et ils nous font perdre du temps. Alors, il y aura, je ne sais pas quand, une mauvaise solution, que ce soit une dissolution ou une élection présidentielle qui arrivera très tard. Nous perdons du temps à cause de ces gens qui, pour moi, sont des tricheurs. Voilà, on a plus de politique d'hommes et de femmes politiques qui sont réellement honnêtes, et ça nous pèse et il va falloir que ça change.
Merci beaucoup Frédéric pour votre remarque. Ce que je trouve intéressant dans ce que nous dit Frédéric, Sophie Dravinel, c'est aussi que à la fois il trouve que tout ça est terriblement injuste et en même temps il veut finalement, comme tout le monde, que ce soit son couloir qui soit en tête et qui gagne, et son couloir à lui et aucun autre derrière. Donc est-ce qu'on n'a pas aussi notre petite part de responsabilité de notre côté de citoyen, non ?
Oui, si, certainement, il y a cette responsabilité-là, mais moi j'entends quand même dans ce qu'il dit quelque chose chose qui est justifiée. C'est-à-dire que Emmanuel Macron...
Pardon, je vous interromps. Il dit coup d'État, il dit tricherie, il dit des mots qui ont du sens quand même.
Non, mais bien entendu, coup d'État, mais ça veut dire... Ça, tout dépend
institutionnel.
Tout dépend de quoi on parle. Le socle commun, il a existé. C'était une réalité arithmétique. Aujourd'hui, il n'existe plus, mais il est vrai qu'Emmanuel Macron n'a jamais purgé la possibilité d'avoir la gauche qui était quand même en tête. De fait, au moment de cette... avec les résultats de cette dissolution, qui pouvait être considérée comme en tête, au moins par certains. Et il n'a jamais voulu purger cela. Et ça provoque effectivement chez les Français, chez les citoyens, ce sentiment de triche et de vol. En tout cas, que moi, j'entends. C'est-à-dire que jamais on a laissé à la gauche la possibilité d'essayer dans toutes les tentatives qu'il y a eu.
Quand on entend notre auditeur, Gilles Finkelstein, on se demande si le responsable, c'est l'hyper-verticalité ou pas, ou est-ce que ce sont les partis, on a l'impression, et ça c'est une sorte de fil rouge sur l'ensemble de la journée sur France Inter, en fait, nos auditeurs partagent beaucoup leurs responsabilités, soit directement dirigées vers Emmanuel Macron, beaucoup dirigées vers ce qu'ils appellent l'irresponsabilité des partis.
Ouais, je pense qu'en fait, chaque citoyen, enfin beaucoup de citoyens sont traversés eux-mêmes par cette contradiction où ils en veulent au président de la République. Et je pense que c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron n'entend pas, c'est que il faudrait qu'il lâche du lest. Mmh. Et manifestement, il n'y arrive pas. Il le dit plusieurs fois, mais il n'arrive pas à le faire. Et de manière symbolique, la réunion qu'il organise vendredi autour de lui à l'Élysée avec l'ensemble des chefs de...
Convoqué
à 2h du matin, je trouve, en est une terrible illustration de cette volonté que ce soit autour de lui que tout s'organise. Donc il y a d'un côté cette volonté-là, on le sent, je pense, une partie qui est très importante de l'opinion, que le président lâche du lest et mette un genou à terre. Et d'un autre côté, le sentiment que ce bazar doit s'arrêter, qu'il faut que les uns et les autres s'entendent. Et je trouve que cette contradiction, cette tension-là, elle est à l'intérieur de beaucoup de citoyens.
Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps ? Parce qu'au fond, si on a tant aimé les cohabitations, c'est peut-être aussi qu'en creux, ce qu'on disait au président, et ça a été Mitterrand et ça a été Chirac, c'est lâcher du lest, chacun son rôle, vous en surplomb, l'autre les mains dans le cambouis. Mais au fond, encore une fois, si on a aimé ça, est-ce que ce n'était pas à chaque fois, exactement comme là, pour dire au président, lâcher un peu du lest ? Et c'est la raison pour laquelle, je repense à notre auditeur précédent, on en veut là à Emmanuel Macron, parce que ce que lui disent les auditeurs, c'est accepter la cohabitation. Et au fond, telle qu'on la connaissait, en fait. Rendez-nous ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà vécu.
À juste titre, moi, je trouve, parce que le président... je pense, est dans une forme d'irresponsabilité. Il ne lâche pas... on sera peut-être pas d'accord, mais il ne lâche absolument aucun lest. Il fait ce qu'il n'est pas du tout prévu qu'il fasse, de prendre la parole sur des sujets de politique intérieure depuis l'international, comme il l'a fait ce lundi matin, de convoquer les partis autour de lui en excluant d'autres partis, le RN en l'occurrence et les Insoumis, dans une gestion avec Sébastien Lecornu, dans une espèce de duo. Il ne lâche aucun lest et il ne laisse pas les Français respirer.
J'ai vu votre réaction, Gilles Finkelstein. Je voudrais d'abord qu'on écoute Sébastien qui est à Lyon, s'il vous plaît. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Eh bien, on a perdu Sébastien. Gilles, vous vouliez ajouter quelque chose à ce que disait Sophie de Ravinel ?
Non, c'était à ce que vous disiez, parce que j'étais en désaccord.
Ah, ben allez-y, je vous en prie.
J'étais en désaccord, Fabien.
Donc, on a l'habitude, on a aimé ça, ces moments de cohabitation.
Je pense que ce qu'on a aimé dans la cohabitation, c'était le vieux rêve français de l'Union nationale. Et ce n'était pas le partage des pouvoirs. Et je pense que cette question du partage du pouvoir et surtout d'une concentration de plus en plus forte du pouvoir à l'Élysée, elle est plus récente parce qu'elle est très étroitement liée au quinquennat. Et c'est depuis Nicolas Sarkozy que le pouvoir est concentré à l'Élysée et autant concentré à l'Élysée. Et c'est depuis Emmanuel Macron qu'il l'est davantage encore.
Ouais, mais en même temps, ça fait depuis Nicolas Sarkozy qu'il y a un seul quinquennat. Sauf là, Emmanuel Macron en 2022 avec une élection particulière, encore une fois, le oui ou non face au RN. Mais Sarkozy 5 ans, Hollande 5 ans et les 5 premières années effectivement de
Macron. Que c'est comme s'il n'y aura qu'un seul quinquennat d'Emmanuel Macron parce que ce second quinquennat, il est pour l'instant un quinquennat pour rien et on ne voit pas comment il va finir par être un quinquennat pour quelque chose.
On a retrouvé Sébastien. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, donc moi, pour faire écho à votre sujet, moi j'étais militant et je ne vote plus aujourd'hui, alors que j'ai toujours eu une conscience politique, j'ai 56 ans avec cette génération, on touche pas à mon pote et autres. Moi, La République En Marche, depuis 2017, j'ai adhéré et j'ai eu des responsabilités départementales dans le Gard, puis nationales, donc j'étais au Conseil National, j'ai voté, etc. En fait, moi j'en suis sorti, pas écœuré, mais effrayé en fait, du fonctionnement des partis politiques. Il n'y a pas de démocratie dans les fonctionnement interne des partis politiques, sur le choix des candidats et même sur la vie. La particularité, La République En Marche, il y avait des comités. Donc moi, j'étais animateur d'un comité, puis j'ai eu des responsabilités départementales et nationales. Donc au niveau des comités, ça fonctionnait très bien. J'avais un comité très dynamique dans le Gard. Je les salue s'ils m'écoutent. On perdait énormément d'énergie à vouloir faire fonctionner des systèmes démocratiques. Beaucoup étaient dégoûtés, partaient. Paradoxe, c'est La République En Marche, c'est une petite passe d'armes, parce qu'on n'utilisait pas le terme parti. Et ils ne voulaient pas un parti politique. Le fonctionnement des partis est vraiment à mettre en cause. Si les gens sont comme ça un peu écœurés, c'est qu'en fait, la légitimité que tirent les candidats, mais même à des niveaux très bas, départemental, ou même au niveau des communes, souvent ils l'attirent des militants, et c'est des gens qui ne sont pas élus par des militants. Il y a souvent que des courtisans, et leur légitimité, ils l'attirent des fois de quelques dizaines, une poignée de votes, avec en plus souvent très peu de démocratie, pas trop de discours de contradictoires dans le fonctionnement du parti.
Sébastien, est-ce que vous avez compris à ce moment-là ce que j'allais dire le parti, effectivement vous avez raison, on ne voulait pas appeler ça le parti à ce moment-là, La République En Marche.
Mais même on parle de parti.
Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez compris ce qu'ils attendaient de vous en fait, au fond à quoi selon eux vous pouviez servir vous dans les comités locaux, c'est-à-dire parce que si je vous entends et que vous trouvez que c'était très vertical et que finalement rien de ce que vous disiez n'existait ni ne remontait, à votre avis, à quoi pensait-il que vous alliez pouvoir servir ?
En fait, je pense qu'il y avait une réelle volonté au départ. Tout ça a assez rapidement fonctionné. Les comités sont nés un peu, soit dans des quartiers, soit dans des communes, rurales, semi-rurales. Moi, c'était plutôt semi-rural. Ça a agrégé comme ça des personnalités très différentes. Moi, je me suis payé, entre guillemets, uniquement sur les rencontres et la richesse que j'ai pu rencontrer. J'avais un prof au Collège de France. J'avais une dame qui avait eu la responsabilité du marketing d'une société de cosmétiques très connue, qu'on trouve partout dans le monde. Donc ces gens-là avaient des grandes compétences qu'ils ont mis au service de La République En Marche. Et très rapidement, on a vu que c'était à sens unique. Donc on faisait remonter. Alors on a beaucoup aidé à la présidentielle, puis après on a enchaîné avec les députés. Moi, j'étais sur une circonscription particulière dans le Gard, parce qu'on avait Gilbert Collard en face de nous, avec un parachutage comme ça d'une personnalité. On a failli gagner. Et puis, en fait, très rapidement, à partir du moment où c'était en sens unique, alors, localement, ça se passait bien avec les élus. J'avais du monde autour de moi, des députés médiatiques. Alors, on était là, on était présents, ils étaient ravis d'être là. Certains nous incorporaient à. Alors, ce n'était pas des prises de décision, mais il y avait des débats en amont sur des sujets. Je pense à la loi bioéthique, par exemple. On avait beaucoup travaillé avec une députée de l'Hérault. Mais c'est vrai que ça restait souvent comme ça, superficiel. Quand on rentrait dans le dur du sujet, c'est-à-dire quand on anticipait sur des élections, alors là, on voyait très bien que ça nous passait bien au-dessus de la tête et qu'on ne tenait absolument pas compte de la réalité du terrain. Il y avait des ambitions personnelles, il y avait des accords qui étaient passés bien au-dessus entre les partis, et localement, en fin de compte, ça n'existait pas. Ouais. Et même quand c'était le cas pour La République En Marche, au début, il y avait des opportunités. J'en ai même profité. J'étais candidat à la candidature, etc. Dès que on rentrait un peu en compétition avec des personnalités locales, qui venaient en l'occurrence souvent du PS ou autre.
J'entends
on voyait
bien,
très bien qu'on n'avait pas les règles du jeu.
Merci beaucoup Sébastien, il est précieux vraiment votre témoignage. Et je ne sais pas s'il faut entendre dans ce témoignage les partis ou le parti, en fait, Sophie de Ravinel. Parce que ce que nous dit Sébastien, c'est des choses qu'on a beaucoup entendues après le premier quinquennat, justement, de tous ces marcheurs qui avaient eu confiance, qui voulaient y aller. Et puis, on est très vite arrivé, on se souvient qu'on avait appelé ça les godillots, souvenez-vous, ceux qui suivaient les yeux fermés, etc. Et les remontées qui ne venait pas. Donc c'est les partis ou le parti ?
Moi je pense que ça s'est inscrit dans une période de désaffection des partis et qui avait au moment, dans les premiers temps d'Emmanuel Macron, une véritable aspiration démocratique qui était vraiment présente chez des personnes qui, issues du PS, issues de la droite républicaine, voulaient dépasser un peu ces formations qui, encore une fois, s'essoufflaient. Et figurez-vous que Jean-Luc Mélenchon l'avait vu lui aussi, puisqu'il avait décidé de dépasser ces mêmes partis que lui pensait déjà atrophiés et qui étaient étouffés dans les années 2010-2015. Il n'y avait pas eu ce renouvellement démocratique et donc il y a eu cette aspiration dont notre auditeur parle très justement et qui a été déçue. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron est un pur représentant de la société de consommation superficielle et qui n'est absolument pas fondé son parti. C'était les trois petits cochons, la maison de papier. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune implantation et très vite les réflexes de notables locaux dans les partis historiques qui avaient conservé leurs ancrages et leur jeu de pouvoir sont venus révéler la vérité des choses. Et donc ça a créé chez notre auditeur, mais chez beaucoup de Français, cette déception, cette lassitude et aujourd'hui sans doute une forme de dépression qui conduit effectivement à l'abandon des urnes et qui est pour moi un vrai danger pour la démocratie.
On a cru, Gilles Finkelstein au début, c'est la période de notre ami Sébastien, à une espèce de nouvel âge d'une démocratie post-partisane. J'ai un peu le sentiment que c'est ce qu'il essayait de nous raconter. Et puis là, on a les deux pieds, mais dedans, les pieds, les mains et l'ensemble du corps, en fait.
Ouais, je pense qu'il y a une crise profonde de tous les partis.
Ouais, ouais.
Mais il y a sans doute une crise spécifique de Renaissance ou de En Marche, je ne sais plus comment s'appelle le parti, parce qu'il y a eu...
Parce qu'ils pensaient partir différemment,
voilà,
en fait.
Parce qu'il y avait cette promesse de quelque chose de nouveau, d'ailleurs qui n'était pas un parti, qui était un mouvement, une promesse d'horizontalité. L'acte de naissance, c'était la grande marche, où les adhérents qui ont été, pour le coup, par centaines de milliers, qui ont été allés faire du porte-à-porte.
Donc quelque chose de post-partisan.
Il y avait cette promesse de renouveau. Or, c'est un parti dans lequel les adhérents, les militants, se sont retrouvés sans aucune fonction. Ce n'était pas eux qui désignaient les candidats, c'est une des fonctions des adhérents d'un parti. Ce n'est pas eux qui fixaient la ligne, les orientations, la doctrine. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est toujours refusé à ce que son parti s'engage dans ce travail-là. Et comme c'est un parti qui n'avait pas d'implantation locale, il n'y avait même pas ce lien avec les mairies qu'il peut avoir ailleurs.
Ni structuration intellectuelle.
Alain est avec nous. Bonsoir Alain. Alain. Est-ce qu'on a Alain près de nous ?
Alain.
J'aimerais bien qu'on ait Alain près de nous, mais visiblement pas. Ou en même temps, de très loin, en fait. Non, Alain ? Eh bien, écoutez, vraisemblablement pas. Donc, c'est pas grave. On a Michel par mail, le temps qu'on récupère Alain, qui nous dit « Je dis bravo à Sébastien Lecornu d'avoir accepté de redevenir Premier ministre et aussi à tous les ministres d'avoir osé braver les consignes de leur parti », nous dit-il. « Je suis extrêmement déçu de l'attitude de tous les partis politiques, voyez encore eux, spécialement le PS et LR, qui ne voient que leur intérêt partisan et non l'intérêt de la France dans cette période très préoccupante. » Voilà ce que nous dit Michel. Et c'est vrai, est-ce qu'on a le sentiment auprès de nos auditeurs que ça, c'est de la très très vieille politique, notamment d'exclure ceux qui rentrent dans un gouvernement où on a dit que finalement on n'y rentrait pas, etc. Là aussi, ça nous appelle peut-être à une espèce de on parlait tout à l'heure de démocratie post-partisane, qu'on n'arrive pas à atteindre, que les partis n'arrivent pas à atteindre.
Oui, c'est évident que tout cela peut sans doute faire penser aux Français qu'il faudrait une réforme, sinon une réforme vers la 6e République, mais au moins quelque chose qui donne le sentiment qu'on redynamise ou qu'on revivifie.
Ou un autre fonctionnement des partis, en fait, si c'est les partis,
mais
c'est pas la 5e qui est en cause, en fait.
Ben, ça dépend, parce que si les partis ne fonctionnent pas, les élections ne fonctionnent pas, alors effectivement, peut-être qu'on peut imaginer des...
Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de neuf, Gilles Finkelstein, et surtout, au fond, encore une fois, est-ce que c'est les institutions ou est-ce que c'est ceux qui les représentent qui provoquent le blocage aujourd'hui ?
Alors, je reviens sur le parti. Peut-être mettre un grain de sel ou de poivre. Est-ce que c'est choquant d'exclure un responsable d'un parti qui s'engage dans un gouvernement alors que la position du parti est de ne pas y aller? En réalité, je comprends, évidemment, ça fait stalinien, mais un parti politique, c'est quelque chose de collectif, et on se plaint toujours souvent de l'absence de cohérence. S'il y a une décision qui est prise, c'est pas totalement illogique qu'il faille s'y tenir, ou sinon c'est une aventure individuelle.
Attendons de voir si cette décision va être prise effectivement, si ça ne va pas partir dans des marécages qui vont encore donner le sentiment aux Français qu'il y a un écran opaque entre les décisions et les effets qui suivent. Moi, je pense qu'il y a une crise de la vie politique, pour revenir à ce que nous disions, il y a une crise de la démocratie, il y a une crise du rapport à la société, de l'individu à la société.
Et on va y venir, parce que moi, le sens de ma question aussi, c'est on a toujours le sentiment qu'on vit dans une île, parce qu'on ne se regarde que soi-même, mais si on regarde chacun de nos voisins aujourd'hui, en tout cas beaucoup de nos voisins, peut-être qu'ils pourraient avoir quasiment le même débat que nous avons nous là, alors à la crise politique exclue bien sûr, ils ne sont pas à chercher un gouvernement tous les quatre matins, mais enfin quand même on y viendra. Marc est avec nous, bonsoir Marc.
Bonsoir Fabien de Saint-Esse, bonsoir à vos invités dont j'apprécie les analyses. J'ai écouté l'émission depuis le début et j'approuve ce qui vient d'être dit par les auditeurs et vos intervenants. On a beaucoup parlé des symptômes, mais je crois qu'il faut trouver la cause sans faux fuyant et agir dessus. Moi, il me semble que je ne vois qu'une solution qui est drastique et puis qui ne va pas plaire à tout le monde. Je pense qu'il faut mettre fin à l'élection présidentielle, au suffrage universel, et en revenir à la constitution de la Ve République d'avant le référendum de 1962. Parce que pour moi, cette élection présidentielle au suffrage universel a plusieurs inconvénients. D'abord, je ne suis pas constitutionnaliste, mais il me semble qu'elle fausse l'équilibre de la Constitution, car le président élu par tous a tendance à surpasser le rôle que lui donne l'article 5 de la Constitution. Et comme Sarkozy, par exemple, il traitait François Fillon de collaborateur, alors que normalement, d'après la Constitution, article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Donc, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, l'élection fausse le rôle des partis politiques, vous l'avez bien décrit. Les partis politiques, ce ne sont plus des forces de réflexion, de proposition et de compromis, ce sont des écuries pour présenter des candidats à l'élection présidentielle. Alors, tout un chacun qui pense être un jour président de la République, d'Édouard Philippe à Mélenchon, fonde son parti politique. Ça n'a plus de sens. Et troisième...
Rapidement, s'il vous plaît, Marc, allez-y.
Oui, donc rapidement, l'élection présidentielle, j'avais encore deux points. L'élection présidentielle affaiblit la France parce que on est en 2025, on attend 2027. Ça fait 2 ans de perdu. 6 mois après pour se mettre en place, ça fait 2 ans et demi, la moitié d'un quinquennat. Et enfin, dernier point, je trouve que l'élection présidentielle affaiblit la France en Europe. Parce que tous les ténors politiques rêvent plus de l'Élysée et de Matignon que de travailler à Bruxelles ou à Strasbourg.
Merci beaucoup pour ce message très complet, Marc, et de votre intervention dans le téléphone sonne. Ce que je trouve intéressant, Gilles Wilgenstein, c'est que notre ami Marc nous dit que en effet, le président surpasse le rôle pour lequel, qui devait être le sien en vertu de l'article 5 de la Constitution. Donc, cessons de l'élire au suffrage universel. Mais au fond, la question que j'ai envie de poser, c'est comment se fait-il que d'un président après l'autre, effectivement, on ait fait du président de la République quelque chose qui n'était pas inscrit dans la Constitution, de fait. En tout cas, pas à ce point-là.
Et oui, la question, c'est est-ce que c'est lié à son mode d'élection,
mais
ou est-ce que c'est lié à autre chose, puisque en fait il n'a été élu qu'une fois au suffrage universel indirect, qui était le texte initial de la Constitution de 1958, par un collège de 60 ou 70 000 personnes.
Et notre auditeur a raison.
Dès 1965, c'est la suffrage, le suffrage universel direct, l'ensemble des Français.
Sachant, on va pas. Que, effectivement, De Gaulle avait l'espèce de légitimité de l'histoire, en fait, donc ce qui lui suffisait, si je puis dire. Et d'une certaine façon, on a le sentiment qu'il a offert aux autres une légitimité en leur disant bah, comme ça, vous l'aurez avec le suffrage universel. Mais voilà ce que nous en avons fait. Donc, est-ce que c'est la faute du suffrage universel ou des présidents successifs seulement Emmanuel Macron, en fait.
Et alors, troisième hypothèse, est-ce que c'est une des conséquences du quinquennat. La concordance du scrutin présidentiel et du scrutin parlementaire, et du scrutin parlementaire qui n'est plus que une, ou qui n'était, disons jusqu'en 2022, qu'une conséquence de l'élection présidentielle, d'un président qui est élu par ailleurs sur un programme de plus en plus précis, c'est parce que voilà, il doit sur l'ensemble des sujets dire ce qu'il veut faire et qu'après il a le sentiment que lui seul est responsable de son programme et lui seul peut l'appliquer.
Moi, j'en suis convaincue aussi. Ce que je pense, c'est que la Constitution, elle a été faite aussi pour le général de Gaulle, pour une personnalité comme le général de Gaulle, et qu'Emmanuel Macron, encore moins que ses prédécesseurs, n'a ce sens de la responsabilité de l'État que pouvait avoir le général de Gaulle. Je pense effectivement qu'il va y avoir des réformes, que le septennat pourrait bien revenir. En tout cas, c'est quelque chose qui, quand je parlais de réformes tout à l'heure et de ce dont les Français ont besoin, on l'entend, on ne cesse de l'entendre, cette envie de changer quelque chose. Et moi, je conseille à notre auditeur une tribune dans le Figaro de Sylvain Faure, qui est un ancien conseiller d'Emmanuel Macron, et de Laetitia Strauss-Baumard, qui a été publié il y a trois jours, sur justement cet écart entre la personnalité du général de Gaulle et la Constitution faite pour lui, et aujourd'hui celle d'un chef de l'État que plus personne ne peut destituer.
Il nous reste très peu de temps, mais Richard, on a un peu de temps pour vous, donc je vous en prie, allez-y. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir. Donc, merci de vos émissions, merci de prendre mon appel, et je vais être très synthétique. Ma première remarque était par rapport au quinquennat septennat. Je suis complètement d'accord, j'entendais votre invité, que l'esprit de la Constitution a été changé depuis la réduction au quinquennat. Et notamment, le président n'est plus au-dessus des partis, n'est plus un arbitre. Et c'est ce qui nous pose d'énormes problèmes aujourd'hui. Ma deuxième remarque, c'est que il y a eu quand même l'émergence de deux partis populistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des solutions simples à des problèmes complexes. Mais le problème, c'est les FI et le RN, pour ne pas les nommer. Et il y en a un qui nous conduit au chaos économique et l'autre qui nous conduit au chaos sociologique. Donc on comprend que les gens qui ont, on va dire, des responsabilités, hésitent avant d'engager la France dans une de ces voies.
Merci beaucoup, Richard. Pardon de vous interrompre, mais là, vraiment, il faut y aller. Et juste en un mot, Gilles ou Sophie, ça existe des voies pour dire revenons au septennat ou pas ? Est-ce qu'il y a des voies qui disent qu'il faut modifier ça ou pas ?
Alors, il y a des responsables politiques qui ont proposé ça. En revanche, revenir sur l'élection du président au suffrage universel direct, alors que c'est la dernière élection à laquelle les Français participent massivement, là, il y en a moins.
Voilà. Et d'autant que, justement, ce que disent les Français surtout, c'est qu'ils voudraient pouvoir, justement, agir plus souvent.
Absolument.
Donc, si on leur donne une fois tous les 7 ans, ce sera pire. Je vous remercie chaleureusement tous les deux. Et bien sûr, vous tous qui nous avez appelés, la pub, c'est tout de suite.